d'ailleurs un certain pic au courant du siècle à venir. Donc, il n'y a pas de croissance infinie, ça, c'est pas ce qu'on observe. Il y a même une modération de la croissance. Fait une chose. Après, d'autre part, de manière générale, comme j'ai essayé de vous le montrer, il n'y a pas de corrélation directe entre les individus et la pollution. Il y a une corrélation directe entre les grosses entreprises et leur croissance et la pollution, mais pas le nombre d'individus. Par exemple, disons, et en particulier là où il y a les plus hauts taux de fécondité, souvent dans les pays du sud global, c'est là où il y a le moins de pollution. C'est des gens qui consomment beaucoup moins que nous et qui, finalement, ont une empreinte écologique, disons, individuelle, disons, vraiment moins. Donc, en fait, ce qu'on regarde statiquement, c'est qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la croissance de la population et la croissance des émissions ou de la pollution. Il y a une corrélation directe entre l'accumulation du capital et la croissance de la pollution, mais ça n'a pas rapport avec la croissance de la population. Je dirais ça rapidement, après je vous renvoie pour les petits détails sur notre livre. Le point d'arrivée aussi de cette question-là, c'est qu'il faut faire très très attention, parce que c'est beaucoup des gens qui ont un discours, pour dire les choses franchement, éco-fasciste, qui tablent sur cet argument-là. C'est-à-dire qu'ils se servent de cet argument-là pour rentrer dans le débat écologique et pour insister sur la question qu'il faut limiter l'immigration et qu'il faut fermer les frontières. Mais en fait, c'est plus un instrument dont ils se servent. Et donc, il faut faire attention à cette question-là parce que elle ouvre une boîte de Pandore et elle déplace l'enjeu d'un vrai problème vers un faux problème. C'est sûr que de manière générale, s'il y a plus de gens, en général, ça demande plus de ressources. Mais ça dépend toujours aussi de comment on produit ces ressources. Par exemple, pour donner un exemple sur la question de la nourriture, on peut très bien nourrir toute la planète déjà aujourd'hui, parce que le plus gros du problème, c'est un problème de gaspillage qui est surtout alimenté par la surproduction industrielle, le suremballage puis les épiceries. Mais en plus, on serait en mesure, selon certains rapports de l'ONU, de répondre aux besoins de l'ensemble de la population mondiale avec une agriculture biologique, et même avec plus de population. Donc l'enjeu, c'est aussi nos façons de produire. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre population et dégâts écologiques, il y a une corrélation entre croissance, accumulation du capital et destruction écologique.
Tu as venu à brûler tes punchs, mais j'ai le livre, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais je suppose que tu t'en vas vers la décroissance, en fait. C'est une proposition décroissanciste que le livre promeut. Est-ce que je suis
d'accord? Oui, on est proche de cette galaxie de pensée-là. On a certains différents là, que vous allez peut-être remarquer au fur et à mesure du livre. Là. C'est plus des différents d'analyse, dans le fond, donc comment on analyse le problème. C'est-à-dire que, mais ça, vous regarderez, il y a un mythe consacré à la question de la religion de la croissance infinie. Comme j'ai essayé un petit peu plus de vous le montrer, c'est une dynamique d'accumulation qui est liée à des enjeux structurels. Il ne suffit pas de dire aux gens, arrêtez de croire que la croissance va nous sauver ou que c'est la solution pour que ça change. Il faut changer les structures sociales. Et là-dessus, c'est surtout là-dessus qu'on insiste. Mais en effet, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de l'impératif de la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument zéro croissance ou décroître, mais il faut se débarrasser de l'impératif absolu de la croissance. Puis le principal problème de la croissance, c'est sa dimension matérielle. Donc l'enjeu, ce n'est pas de rendre les gens plus pauvres. L'enjeu, c'est de décroître notre empreinte matérielle tout en assurant la satisfaction des besoins.
Je ne veux pas développer sur les différences que vous avez avec les
décroissances. Le principal différent, c'est que je pense que c'est plus une question d'analyse. C'est-à-dire, dans la décroissance, par exemple, Serge Latouche va dire qu'il faut décoloniser l'imaginaire. C'est bien beau, mais on peut bien décoloniser l'imaginaire si la structure sociale reste la même, ça ne change pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'idée, une question de... Donc, on a une perspective plus matérialiste sur la... disons, sur la dynamique sociale. Donc, il ne suffit pas de dire aux gens disons, il y a un changement éventuellement culturel à faire, mais d'abord et avant tout, il faut changer la dynamique qui crée de la croissance, puis la dynamique, c'est la dynamique d'accumulation liée au marché capitaliste. La croissance, c'est un effet, c'est pas la cause. C'est un effet. Voilà. C'est un peu, c'est plus ce différent-là. Mais après, fondamentalement, on est d'accord parce que, je voulais montrer sur la question de l'énergie. On peut pas répondre de la même façon à nos besoins énergétiques avec avoir la même consommation énergétique avec des énergies renouvelables. Il va falloir inévitablement réduire notre consommation d'énergie. Fait que ça implique d'abandonner l'objectif de maintenir toujours une croissance économique. Oui?
Moi, j'avais une question slash une remarque pour revenir oui. un peu sur la question du découplage.
Oui.
Donc, je vais essayer de bien articuler mon idée. Mais...
Enlève ton masque.
Ah, mais j'en ai un masque, ok. Donc, on s'est intéressé à la question du découplage et on s'est mis dans la position de celui qui consomme. Tu as démontré que... en tant que consommateur, on avait un pouvoir assez limité quand même pour changer les choses. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se mettre parfois dans la position de l'investisseur. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on sort d'une période où certains d'entre nous, en tout cas dans ma génération, on a peut-être mis un petit peu d'argent de côté, un bas de laine, pendant la pandémie ou parce qu'on a travaillé fort. D'autres générations ont travaillé pour avoir une retraite et investissent dans des fonds de pension alternatifs, et on entend de plus en plus un mythe sur la finance durable. Donc ça veut dire qu'on nous fait croire que notre conseiller peut être un allié de la transition. Et là, je pense que cette idée, il faut bien la challenger, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, primo, il n'y a pas, comme tu l'as dit, de couplage entre performance financière et performance ESG. C'est-à-dire qu'un financier, votre conseiller financier, votre gestionnaire de portefeuille, même s'il vous assure qu'il vous fait investir dans des fonds qui sont propres, il manque d'informations et souvent, malheureusement, il vous ment. Il vous ment aussi parce que lui, il n'a pas d'obligation. Il a la seule obligation qu'il a vis-à-vis de vous, c'est une obligation fiduciaire, c'est-à-dire de vous faire gagner de l'argent, mais il n'a pas l'obligation de sauver la planète. Donc, il faut être regardant sur la question de l'investissement. Il ne faut pas hésiter à les challenger aussi au moment de vous dire ben, où est-ce que je veux placer mon argent, sachant qu'en effet, je pense que la question du rendement, elle se pose. On ne peut pas avoir les mêmes rendements dans un marché propre que dans un marché, marché général. Et si on veut vraiment faire attention, peut-être que l'économie sociale et solidaire, ou vraiment se concentrer sur l'économie plus réelle, c'est les seules alternatives qui tiennent. Mais en gros, de ce que j'ai dit, ce qu'on doit retenir, c'est challenger votre conseiller financier, faites attention que vous investissez, parce que c'est aussi une façon de... malgré nous, de participer à ce que tout ce que tu viens de décrire, quoi.
Peut-être juste un commentaire rapide. Il y a deux ans, l'UPOP a fait un cours sur l'investissement éthique.
Ah, ok.
Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient là, ou certaines d'entre vous. J'ai pas tout suivi parce que c'était quand même des notions assez complexes, mais je crois que la conclusion, c'était que c'était grosso modo impossible d'imaginer faire des profits par l'investissement sans que ça pose problème. Et que la seule chose qu'on pouvait faire, en fait, il y avait un être exceptionnel qui s'appelait John McFedrin Weiser. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il fait des conférences, il parle, il explique son point de vue. Il s'occupe d'une sorte de organisme qui essaie d'engager des gens très, très riches à gaspiller leur argent ou à comme arrêter d'investir dans... Donc, c'est comme des jeunes qui ont reçu des richesses incroyables de leurs parents et qui ne veulent pas du tout avoir ces richesses-là. Donc, c'est comme un profil très particulier. Puis eux, ils ont un certain nombre de critères pour l'investissement pour dire que cet investissement-là n'est pas correct, mais qui est le moins pire. Entre autres, par exemple, si tu mets de l'argent dans un espace, ne pas laisser les gens à qui tu l'as prêté moins riches après que tu l'aurais prêté, un certain nombre de codes comme ça, s'assurer que les gens à qui tu prêtes ont la souveraineté sur ce qu'ils font, bon, un certain nombre de critères, mais même à ça, lui arrive à la conclusion que, au final, ça crée des problématiques. Donc, mais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ce problème-là est tellement frustrant.
Il est conséquent, mais le problème, c'est qu'en fait, on a peu d'actions qu'on peut poser dans la société, mis à part peut-être parfois consommer et, pour d'après moi, investir, d'autant plus quand tu veux... On est dans une crise sociale. Tu veux t'assurer d'avoir une retraite. Tu veux t'assurer de ne pas être plus pauvre dans 10 ans que tu n'es maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'investis dans la pierre, c'est-à-dire dans l'immobilier. Ça crée des bulles, c'est pas forcément mieux, les gens ne peuvent pas se loger. Et tu te dis, bah non, je vais essayer de le faire fructifier sur les marchés financiers. Ces grandes entreprises, elles ont besoin de se capitaliser. C'est là que ça se rencontre. Nous, notre besoin de sécurité à long terme, et eux, leurs besoins de capitaux. Et en fait, qu'est-ce qui te reste ? C'est l'espoir que tu peux faire des investissements un peu responsables. Donc là, clairement, il y a des choses qui vont se jouer. Il y a encore des mythes, il y a des mensonges. Je pense qu'il faut... Ça, c'est de la macroéconomie, mais aussi un enjeu de nous, comment on fait.
Bien sûr. Mais ce qu'on essaye, si je peux prendre le relais là-dessus, je pense qu'on essaie d'abord de dire dans notre livre, c'est, puis ce que j'ai essayé aussi de vous dire ici, c'est que s'il y a bien une chose que vous pouvez faire comme individu, c'est d'abord en dehors du supermarché puis de la banque. C'est d'abord dans la rue. Autrement dit, c'est votre engagement citoyen qui compte le plus. Si vous avez de l'argent à dépenser, ben, y a bien des groupes qui vont être contents d'avoir de l'argent pour organiser des manifestations, pour faire des affiches. Puis ça, c'est aussi notre retraite dans cette question-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rendement là-dessus, mais il y a à tout le moins peut-être des perspectives qui s'ouvrent plus que... Parce que tout ça arrive très, très vite. Hein. Les 10 prochaines années, il faut que ça change. On a une fenêtre de 10 ans pour que qu'on brasse la cage. Après, évidemment, ça va prendre... C'est une lutte qui est prolongée, mais la descente qu'on doit faire en termes d'hydrocarbures, c'est dès maintenant qu'il faut la faire, puis il faut l'affronter tout de suite. Puis ça, ben, si vous avez le luxe, c'est pas toujours le cas, le luxe de travailler moins pour militer plus, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire individuellement. Il y a plein de groupes autour de vous, dans votre quartier, dans votre milieu, qui vont être super contents de vous accueillir. Vous pouvez vous organiser même s'il n'y a pas de groupe autour de chez vous. Ça va être plus l'atelier d'Alain Savard, le troisième. Mais nous, c'est surtout là-dessus qu'on insiste. Parce que c'est là-dessus aussi qu'on retrouve des capacités d'agir. Puis on retrouve la possibilité de s'exprimer, puis on retrouve la possibilité d'une forme démocratique plus large que les contraintes des milieux financiers puis du supermarché.
Oui. Moi, ce que vous avez dit, c'est rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Moi, je ne pense pas que le capitalisme va prendre fin dans la décennie qui s'en vient. Aux États-Unis, je ne crois pas.
Moi non plus.
Au Canada non plus, ni en Chine, ni ainsi de suite. Hein? Je ne pense pas. Alors, ça veut dire que si je suis un peu le raisonnement que vous avez élaboré, il y a bien des chances, puis même majoritairement de chances, que la température dépasse 1,5, compte tenu du fait que la fin, ou du moins la baisse du capitalisme créerait peut-être, permettrait à 1,5 d'aller peut-être pas plus qu'à 1,5. Mais comme ça ne prendra pas fin dans les 10 prochaines années, il y a bien des chances que ça monte à 2, et même, moi, je dis des choses, là, ça va probablement aller vers 3. 2,5-3. Compte tenu de cette situation-là et des conséquences de ça, qu'est-ce que ça va être les conséquences sur la population avec une température qui, disons, va dire, au niveau du changement climatique, serait à peu près de 3. Et par rapport à ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure à madame, le fait de se reproduire, d'amener des individus ici, là-dedans, en sachant que ça va se passer, ça pose pas un problème moral aux individus.
Je viens d'avoir un enfant, j'en attends un deuxième, je vous remercie pour la question. J'ai un grave problème moral. C'est des questions...
En sachant que ça va se faire.
Oui et non. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. C'est-à-dire que, évidemment, le défi est titanesque. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré compte. Ça, c'est des millions de vies affectées. C'est des dizaines de millions de vies. Donc, chaque chose que vous pouvez faire, chaque geste compte, c'est vrai. Puis on le dit, mais le principal geste que vous pouvez faire, c'est un geste d'engagement citoyen. Puis ça va compter. Ça va importer. Vous l'avez vu, il y a un écart, le fossé de production. Cet écart-là, il compte. Puis, Alain va peut-être développer sur cette idée-là, je vous vends des punchs, là, mais aussi, disons, il faut prendre acte du fait que, disons que, bon, la situation pour l'instant n'est pas superbe, il y a une partie des choses qui sont déjà de produits du passé, qu'on subit déjà. Mais la meilleure façon aussi de survivre, hein, parce qu'on est déjà dans une forme de survivalisme, la question, ce n'est pas de savoir si on doit être survivaliste ou pas survivaliste, c'est de savoir de quelle couleur on doit être survivaliste. Puis la meilleure couleur survivaliste, ça reste quand même le rouge de la solidarité. C'est-à-dire qu'il nous faut de la démocratie et de la solidarité pour affronter les catastrophes auxquelles on va faire face. Quand on va faire face aux feux de forêt, aux inondations, aux canicules démultipliées, etc., qu'on voit déjà, sans compter les autres problèmes, qu'est-ce qui va nous rester comme ressources au jour le jour? Ben, si on s'est déjà engagé avec notre voisin, dans notre milieu de travail, dans notre université, si on les connaît, si on les reconnaît, on les croise, on a tissé des liens de confiance, on a des groupes, ben, on va être plus capable d'affronter, de faire face à ces crises-là. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de commencer tout de suite à lutter. Puis l'avantage de ça, c'est que non seulement ça nous permet de travailler à limiter la crise climatique le plus qu'on peut, évidemment dans les limites de nos capacités, les limites de nos moyens aussi, mais aussi ça va être la meilleure ressource, la meilleure assurance contre les catastrophes auxquelles on va faire face.
Si je peux me permettre juste un petit commentaire, le philosophe Alain Deneau disait que les perspectives pour nos enfants seraient certainement plus intéressantes dans les années à venir en solidarité et en débat qu'en consommation et en aplatissement généralisé pendant les générations précédentes. Donc, c'est aussi un pari à tenter.
Et les jeunes, hein, qu'on croit perdus, sont ceux qui sont en train de démarrer le mouvement. S'il n'y avait pas eu ces jeunes-là, on serait déjà encore en plus mauvaise situation. Donc il ne faut pas, comme disait Hannah Arendt, il ne faut pas sous-estimer la capacité de chaque nouvel individu de démarrer quelque chose de nouveau. Oui, il y avait plusieurs questions.
Si je peux me permettre, j'ai un désagréable sentiment de flattage de tétane quand je vois des manifestations. Bon, j'étais là il y a quelques années pour les 400 000 personnes qui se sont déplacées avec Greta qui était sur place d'ailleurs. Et il me semble manquer un objectif concret d'action. Organiser une manif, je ne crois pas que ça diminue la production de gaz à effet de serre. À peu près tout le monde qui était à la manif était venu en char. Et donc, ça a accru c'est pas mal, oui, je pense pas.
Je pense pas.
400 000 personnes. Vous avez mentionné un objectif concret qui n'est pas une manif, ce serait de fermer l'industrie pétrolière.
Oui, oui.
Si l'industrie pétrolière ferme aujourd'hui, d'ici quelques mois, et la station de gaz n'a plus de gaz,
ouais,
je pense que ça va créer un trouble très sérieux dans la population. Et vous avez expliqué le marché, on connaît un peu les règles, c'était bien expliqué, mais Exxon Valdez ne produirait pas et n'investirait pas d'argent s'il n'y avait pas le consommateur à l'autre bout. Et le consommateur justifie toute la chaîne de production. Là où je mettrais des bémols, c'est un gouvernement raisonnable pourrait mettre des obligations auprès des producteurs de pétrole de contrôler les émissions. La nature nous appartient, on peut déverser dessus tant qu'on veut, mais couper la production de pétrole m'apparaît d'une part utopique, d'autre part visant le noir sur le blanc. C'est pas la cible qu'il faudrait envisager. Malheureusement, la cible est assise là. Bon documentaire, David Attenborough, Une vie sur notre planète, parle des régions de la forêt amazonienne qui ont été consacrées à la palme pour fabriquer de l'huile de palme. L'huile de palme sert à fabriquer des produits qui sont achetés par les gens. Une compagnie qui a ainsi mobilisé les forêts et coupé la forêt tropicale a de l'argent à faire, mais elle va faire son argent parce que les consommateurs vont l'acheter. Puis c'est toujours le fameux éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas mentionner. Démoniser les multinationales de production m'apparaît être mettre un écran devant les yeux des personnes qui sont responsables. Ne l'achetez pas le produit, c'est pour moi la seule chose possible. Et doubler la population, en 75 on était 4 milliards, là on est 8 milliards. En 1918, on était 2 milliards. 2, 4, 8. On met 50 ans de plus, on est 16 milliards.
C'est pas ce qu'a
annoncé le président. Je vais lire soigneusement,
oui, oui,
soigneusement votre chapitre.
Ben, écoutez, on est parti de
je finirai avec une vraie question.
Ouais.
Vous parlez d'accroissement qui n'est pas si grave.
Ouais.
Est-ce que cet accroissement-là se passe de manière égale de la population?
Ah.
Est-ce qu'il se passe de manière égale dans les pays défavorisés qui ne produisent pas le taux d'émanation que nous produisons et dans les pays parmi lesquels nous sommes?
j'aurais tendance à penser que c'est légal et que ça augmente également partout. Évidemment, la population des pays sous-développés est plus nombreuse en partant, mais doublez-moi le nombre d'autos en Amérique du Nord, puis figurez ça comme tu voudras.
Mais on est parti de là, on est parti de là. C'est sûr qu'on est parti de la question de la surconsommation. La consommation du pétrole. C'est sûr, on est absolument dépendant du pétrole. Mais est-ce que, je veux dire, les gens, ils n'ont pas de pétrole, ils ne peuvent pas mettre d'essence dans leur voiture, ils ne peuvent pas aller travailler, demain matin, ils n'ont plus de job, ils ne peuvent plus manger. Pourquoi? Ben, évidemment, est-ce qu'ils ont choisi leur lieu d'habitation? Est-ce qu'ils ont choisi qu'il n'y avait pas de transport en commun là où ils habitaient? Qu'il n'y a pas de trottoir, que leur job est loin? Est-ce qu'ils ont choisi d'avoir des moteurs à essence? Est-ce qu'ils ont choisi, il y a tellement de choses qui nous sont imposées par le marché, on n'a jamais eu de décision à prendre. Certes, on les achète, mais à partir de quelles options qui se présentent réellement devant nous? Aujourd'hui, les options écologiques sont soit très chères, soit finalement inaccessibles parce qu'il n'y a pas la configuration géographique. Bon, bref, il y a une série de problèmes qui fait en sorte que il y a beaucoup de gens qui consomment des carburants fossiles bien malgré eux. Donc évidemment, il faut à la fois jouer sur la dépendance sociale aux hydrocarbures, puis des folies comme le troisième lien. Ça, c'est un projet qu'il faut abandonner. C'est une priorité nationale pour le Québec. C'est un trou à cache. Il y a un désastre en termes de GES, que ce soit pour la construction avec l'asphalte, le béton, tout ce que ça va produire, mais aussi les embouteillages, l'étalement urbain, etc. On va juste reproduire cette dépendance sociale au pétrole. Cette dépendance sociale au pétrole, elle a été savamment entretenue par une organisation du territoire qui, à plusieurs moments dans l'histoire, a beaucoup été écrite par les compagnies automobiles et par l'industrie pétrolière. Aux États-Unis, vous connaissez peut-être l'exemple de la destruction des compagnies de tramway. Il y a à peu près 45 villes aux États-Unis. Elles se sont fait racheter leurs compagnies de tramway dans les années 20-30, détruites. Ils ont remplacé ça par Boss GM. Tout ça a été organisé savamment par GM, Firestone et une autre entreprise.
Exxon
aussi. Bon. Donc, il y a des exemples comme ça, on pourrait les multiplier. Donc, à bien des égards, je pense qu'il faut faire attention à ce discours-là. Certes, les individus peuvent travailler à moins consommer s'ils sont capables de subvenir à leurs besoins autrement. Le problème, c'est que, comme on le disait au début, souvent, nous sommes dépendants de manière systématique envers le marché. Ça veut dire quoi, ça aussi? C'est que la médiation entre nous et l'objet qui satisfait notre besoin, c'est le marché. Ce qui veut dire à la fois un emploi, de l'argent et le magasin qui le vend. Moi, je serais bien heureux là, d'avoir un petit terrain pour pouvoir cultiver un potager, tout ça. Mais le temps que je vais consacrer à ça, puis le terrain déjà, il faut que je le trouve, il faut que je l'achète. Le temps que je vais consacrer à ça, ben, c'est du temps que je ne vais pas avoir pour travailler, pour avoir de l'argent, pour combler mes autres besoins. Est-ce que je vais être capable de tout gérer ces contraintes-là? Ça peut être difficile. Il y a des gens qui font ce choix-là. C'est un choix tout à fait respectable. Je pense qu'il peut être encouragé, mais il faut arrêter de faire porter la culpabilité aux gens que, ben, ils doivent travailler puis consommer des produits dont ils n'ont pas choisi la qualité. Je pense que ça, c'est très important. Puis des projections de production d'hydrocarbures comme ça, ça sert surtout à dire, regardez, tout va bien aller, vous n'avez rien à changer. Mais c'est ça l'utopie. L'utopie, c'est de croire qu'on peut brûler les réserves d'hydrocarbures qu'on a, puis en même temps survivre. C'est ça l'utopie. Je sais que c'est un vaste problème. Je sais qu'il faut à la fois s'attaquer à la production et à la consommation. Mais la consommation, il faut s'attaquer aux dimensions structurelles qui nous lient à cette consommation d'hydrocarbures. Donc c'est un peu là-dedans que... oui, dans le fond, je ne sais pas qui était en premier, je n'ai pas vu.
Tout ce que je souhaitais, moi, amener, c'est que je suis d'accord avec toi, mais on peut lutter aussi pour avoir plus de transports en commun. On
bien
peut,
sûr.
C'est
bien
pas,
sûr.
C'est ça. Mais moi,
ça va de pair.
C'est ça, parce que, tu sais, la culture de l'auto, il y a quand même quelque chose qui s'est quand on dit ça a doublé, puis triplé dans les dernières années, il y a quand même quelque chose, oui, qui a été
tout à fait
organisé par le système de marché dans lequel on est. Je suis d'accord aussi. Et on a perdu beaucoup au niveau des transports en commun et dans les régions encore plus.
Oh, ouais,
ça, je sais que dans les régions, c'est très difficile de se passer d'une voiture. Mais moi, ce que je trouve important, c'est je trouve ça fort intéressant, ce que vous amenez, c'est que oui, il faut lutter contre la structure, mais en même temps, en tant que personne, je pense que c'est important. Pour moi, c'est important de parler de
c'est sûr.
Que c'est pas,
On est tout à fait d'accord. C'est pas du tout antithétique. On veut juste dire. Il faut arrêter de se culpabiliser pour des choses dont on a hérité, dont on n'a pas choisi comment elles étaient organisées. Et après, évidemment,
non,
la question...
Mais il y a une culture critique aussi.
Oui, bien sûr, ça commence par là.
Si tu as un petit peu de notion aussi de choix à faire, tu peux être quand même pas très riche et réussir à t'organiser et puis
accumuler d'autres biens, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que si... une des idées qu'on a, c'est que d'un point de vue stratégique, si on veut affronter les titans qu'on a face à nous, il faut être capable de rallier une masse critique. C'est peut-être aussi une des limites, madame qui parlait de la décroissance, des fois c'est peut-être un peu une des limites de la décroissance. D'avoir un discours qui est beaucoup axé sur la consommation et le discours moralisateur qui dit hey, « tu devrais pas faire ceci, pas faire cela ». C'est vrai, on peut essayer de commencer à discuter de ce genre de choses, mais à force de faire ce genre de commentaires-là, ben, on entre dans une dynamique un peu, disons, culpabilisatrice, qui est beaucoup aussi le fait des grandes entreprises, puis du discours gouvernemental, et puis on n'arrive pas à rallier. Puis c'est pas exactement comme ça qu'on va être capable de rallier, puis c'est pas aussi comme ça qu'on va être capable d'agir sur les principaux pollueurs. Après, évidemment, sur la question du transport en commun, tout à fait d'accord, il faut lier les deux. Je pense en particulier pour... là, on a présenté des choses qui concernent l'avenir de la planète, un petit peu le Canada, parce qu'on sait que c'est un vaste problème d'être dans le Canada. Mais la question du transport en commun, c'est évidemment une priorité nationale d'un point de vue climatique au Québec. C'est un désastre monumental. On est un pays sous-développé en termes de transport en commun. C'est une honte chaque jour de penser à ça. Et évidemment qu'il faut mener les deux de pair. Et que ça devrait être une priorité du mouvement, à mon avis, là, si je peux contribuer dans le débat, du mouvement pour la justice climatique, de réclamer un transport interurbain efficace, fiable, abordable, voire gratuit, pour que... Et ça nous permet aussi de rallier des gens, de dire, mais regardez, la lutte au changement climatique, ça va aussi améliorer ta vie. Tu ne vas pas être pogné dans le trafic, tu vas arrêter de payer trop d'argent. Ça coûte combien un char? Entretenir. Ça coûte cher. En moyenne, là, le devoir disait, en moyenne, 11 000 piastres un char par année. Imaginez si chaque personne met 11 000 piastres dans le transport en commun. Quel transport en commun on aurait? C'est faramineux. Tu sais, fait que donc, et ça, c'est important. Il faut qu'on soit capable de porter des revendications politiques qui permettent à la fois d'améliorer la vie des gens directement, immédiatement, puis en même temps, de les rallier à la question de la justice climatique. Et le transport en commun accessible, gratuit et de qualité, je pense que ça fait partie de la recette du succès. Une question, oui?
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis, c'est juste que là, je vais essayer d'être pas trop décousu. Là. Tu parlais d'un plan qui devrait être fait dans la prochaine décennie. Tu parles de solidarité, de militantisme. Dans quelques mois, ça va faire une décennie qu'il y a eu la plus grande grève étudiante au Québec qui s'est transformée en mouvement social incroyable. Et on a vu que c'est à travers la démocratie que ce mouvement-là a été éteint.
Ouais.
Comment, tu sais, je te dirais, tu es philosophe, tu es enseignant, je suis dans le monde de l'éducation, je suis philosophe pratique. Ça serait quoi les stratégies qui pourraient être utilisées soit argumentatives ou pour croire encore à une possibilité de militantisme, de solidarité, comme on l'a eu là, avec les affaires et puis avec tous ces mouvements-là, où là, ça marchait. Puis tu as parlé beaucoup de démocratie, on n'a pas le choix sur tout ce que ces entreprises-là font. Mais alors, si on se base sur la démocratie, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que Québec solidaire est au pouvoir présentement? Non. Tu sais, ça serait quoi tes tes points argumentatifs ou, qui fait qu'on peut vraiment y croire encore.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, puis là, je veux pas vendre des poches, je veux pas vendre des punchs aussi du, excusez-moi, de la présentation d'Alain, là, ce qui va traiter de ça, comment s'organiser. Maintenant qu'on sait c'est quoi le problème, maintenant, après, Fred va nous parler de comment on pourrait changer l'économie, Alain va plus vous parler de comment s'organiser, c'est un spécialiste, cette question-là, ça va lui faire très plaisir. Mais quelques inputs, tu sais. 2012, j'en viens, hein. Je veux dire, j'ai contribué à l'organiser, cette grève-là. Puis, au seuil de la grève, on pensait que ça allait durer 2 semaines. On n'y croyait pas. Et puis, je ne pense pas non plus que le bilan de 2012 soit si négatif que ça. D'un point de vue de l'accessibilité aux études, il y a eu des claires avancées, des claires limitations à tout le moins pour la question des frais de scolarité, puis des augmentations pour l'aide financière aux études. Fait que là-dessus, il y a eu des gains importants. Malgré que ce soit réglé par un vote donc dans la démocratie libérale représentative qu'on a. Bon. Et après, les effets à long terme. Je pense qu'à bien des égards, l'apport significatif de la grève de 2012, ça a été d'ouvrir l'horizon des luttes. Anne-Marie, une camarade qui a lutté... comment? Non, pour ne pas la citer, ouais, trop tard. mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, par exemple, dans Bloquons, dans Coule pas chez nous. Ils ne se seraient jamais impliqués s'il n'y avait pas eu 2012. Ça fait des bourgeons. Chaque lutte fait des bourgeons. La question, le mouvement féministe aussi, a eu des bourgeons qui ont émergé grâce à 2012, entre autres, sur lesquels le mouvement féministe a pu, fleurir davantage. Et donc, tout ça, c'est des impacts qui ne sont pas immédiats, qui ne sont pas directs, mais qui sont là, puis qui, aujourd'hui, on le voit à plusieurs égards, sont palpables. Coule pas chez nous, on a réussi à bloquer le pipeline de l'énergie Est. Cet été, on a réussi à bloquer GNL Québec. Le projet Laurentia, c'est fini. Bon, au Québec, on a quand même, tu sais, des mobilisations sociales importantes qui nous ont amené à bloquer d'importants projets d'hydrocarbures qui ont des conséquences réelles et très importantes sur la croissance des sables bitumineux. Donc, on a fait des avancées. Il faut tabler sur ces réussites-là. Il faut aussi se nourrir. Je pense que l'important, là, le plus important, moi, je suis comme vous, hein, je veux dire, j'ai écrit ce livre, c'était aussi pour me guérir de l'éco-anxiété, là, pour avoir un petit peu d'intelligence de la nécessité pour m'en libérer, en quelque sorte. Ce que je comprends, c'est qu'il faut surtout se nourrir de ces luttes-là qui existent ici et ailleurs, de davantage s'informer là-dessus, de connaître leurs stratégies, de connaître leurs idées, de connaître c'est quoi leur forme de solidarité, que de s'informer de toutes les catastrophes naturelles dans le monde. Vous pouvez passer là, des nuits entières là, à lire sur la crise climatique, tout ce que ça va vous faire de plus. C'est davantage vous refermer dans votre lit puis vous donner envie de finalement de tout lâcher. Okay? Fait que je pense que s'il y a un conseil pratico-pratique, pour ma part, je m'informe quand même, je me tiens au courant parce que c'est important un petit peu d'avoir une idée de comment évolue le climat. Mais bon, une inondation de plus, un feu de forêt de plus, à un moment donné, c'est trop. Notre conscience, elle a des limites. Et après, pour reprendre une idée de Greta Thunberg, je lisais une longue entrevue d'elle dans The Guardian. Elle disait, mais regardez, vous savez, hein, Greta Thunberg, elle a fait une grave dépression liée quand elle a compris ce qui se passait avec le réchauffement climatique. Elle a arrêté de manger, elle a arrêté de rire. Elle a transformé la vie de ses parents pour cette lutte-là. Puis maintenant, elle le dit, c'est très personnel, là, mais en même temps, je trouve que c'est existentiel, là, disons, puis je pense que ça peut avoir une portée parce qu'on est beaucoup de jeunes à faire face à cette éco-anxiété-là. Elle a reconquis une part de confiance et de courage parce qu'elle s'est liée à d'autres pour lutter et qu'elle sait qu'elle fait tout son possible. Puis dès qu'on est sûr, puis dès qu'on sait qu'on fait tout notre possible, dans les limites de nos capacités, qu'on fait tout notre possible pour faire face à cette grave crise, ben là, on peut recommencer à se sentir courageux puis à regarder les gens autour de nous puis se dire, on va y aller ensemble. Je
pense que ça, ça peut donner une base sur laquelle on est en mesure d'avancer, puis on arrête seulement de se dire qu'il n'y a rien à faire.
Ça me fait penser, moi qui est une grande anxieuse, puis tu parlais d'éco-anxiété, c'est vrai que le meilleur remède à l'anxiété, c'est l'action.
C'est ça, exactement. Oui?
Je voulais juste réagir par rapport à plusieurs propos qui ont été tenus sur la décroissance, parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait des petites meilleures compréhensions sur le sujet. Je fais partie d'un groupe, on ne peut pas dire mieux, parce que je ne pense pas qu'on est caché dans l'écran, un groupe de recherche au Québec sur la décroissance qui s'appelle Polémos et qui contient entre autres Yves-Marie Abraham qui donne un cours sur le sujet et puis pas mal de conférences, puis qui a écrit un livre qui s'appelle Produire moins, partager plus, décider ensemble. Puis si on prend ça point par point, produire moins, c'est quand même l'objet principal du sujet. Partager plus, ben ça c'est comme la question de comment est-ce qu'on répartit les ressources de point de vue plus équitable, donc que ce soit comme les inégalités salariales, le fait qu'on exploite les ressources dans les deux pays, etc. Et puis décider ensemble, c'est justement remettre sur le tapis la question de la démocratie qui a aussi été beaucoup traitée aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points de ponts qui peuvent être faits entre le propos qui a été tenu aujourd'hui puis qui est tenu dans le livre et le propos du mouvement de la décroissance qui se limite absolument pas à décoloniser l'imaginaire, même si le propos de cette phrase est beaucoup plus profond qu'il peut y paraître. L'idée, c'est justement de dire, bah là, on est dans un raisonnement de, bah là, on est dans ce système-là, comment faire moins pire avec ce système-là. Puis là, on dit, non, il faut décoloniser notre imaginaire, dans le sens, il faut ouvrir notre champ des possibles. Vous pensez quelque chose de diamétralement différent qui soit beaucoup plus démocratique, qui ne vise pas l'augmentation du PIB, etc. Fait que c'est comme, c'est pas du tout un propos qui est restreint, puis c'est pas non plus un propos qui est accusateur, on va pas dire aux gens genre ah toi t'as consommé, c'est mal, c'est comme hey, repensons la société mais comme par la base, parce que là le modèle qu'on a ne marche pas, ne peut pas marcher, ne doit pas marcher. Fait que si t'es ouvert à en discuter davantage, ce sera avec plaisir, là ouais. Que ce soit avec moi ou avec le reste du groupe.
Non, non, mais je connais bien, d'ailleurs, d'autres membres du groupe, je connais bien le point de la décroissance. On n'a pas de différent radical.
Non, c'est ça.
C'est juste des questions, des fois, d'accent, sur des questions d'analyse puis de stratégie. Tu sais. Ouais. Sur l'essentiel, tout à fait d'accord.
Non, c'est ça, je trouve
Guérir du mal de l'infini de Marie Abraham est un très bon ouvrage, si ça vous intéresse. Produire moins, partager plus, décider ensemble, je veux dire, ça résume très bien, je pense, en général, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, c'est ça, comme j'ai dit, c'est plus des fois des différents sur la conception de d'où vient la croissance, la croissance comme religion, ce genre d'idées-là, c'est plus des différents d'analyse. Après, sur les objectifs politiques, c'est la même chose.
Oui, c'est ça. Mais je voulais insister justement sur ce qui nous rassemble et pas sur les petites différences qu'il peut y avoir, parce que je pense qu'on se tirerait un peu une balle dans le pied si à chaque fois que la totalité du propos de notre voisin n'était pas en cohérence avec nous, on disait non, on est pas. Enfin, c'est ça.
T'as raison, c'est t'as tout à fait raison.
Nous rassembler plutôt que nous.
Ben oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Donc, c'est ça. Comme, bon, je sais pas si j'ai laissé transparaître qu'on était divisé.
Ok.
Ben, tu fais bien de le noter. Il y a pas de différent vraiment. On fait partie de la même famille. On a juste des fois des débats qui sont sains, je pense, là-dessus. Mais en général, on partage bien des idées. Puis, je dialogue souvent avec. Des membres de Polémos avec très grand plaisir.
Fait que, vu que là j'ai dit un truc optimiste et positif, j'ai aussi des avis pessimistes par rapport à d'autres choses qui ont été dites précédemment, mais j'ai un peu d'inertie générale. Pour la question des enfants, il y a quelque chose qui m'a un peu, pas heurté, mais quand même fait cliquer, c'est que quand on dit comme ah ouais, mais nos enfants là ils vont lutter. Ah ouais, nice, fait qu'en plus d'avoir la responsabilité de comme, vivre sa vie, puis comme, la vie c'est pas toujours une partie de plaisir, mais d'avoir la responsabilité de tirer les autres, de prendre des actions, de lutter contre les femmes. C'est toujours un avis personnel, puis comme, mon but c'est pas d'accuser qui que ce soit, quoi que ce soit, je suis correcte avec tout ça, mais je trouve que ça a quand même un biais de se dire ah mais il va lutter, mais le pauvre, quoi, un petit peu quoi. Fait que j'ai un peu d'empathie pour les futurs non-enfants Et puis, le dernier point, c'est qu'on a beaucoup parlé de substitution, de comme, ah, on peut faire des choix écologiques, mais c'est trop cher. Mais même les choix écologiques, quand on regarde dans les faits, il y a beaucoup d'études scientifiques sur comme les empreintes environnementales des gens, puis c'est directement corrélé à leur salaire. Donc même si avec ton salaire élevé, tu fais des choix écologiques, ton empreinte, elle augmente parce que tu as consommé plus. Fait qu'il y a un problème de base, puis je pense que c'est très lié à ce que tu disais aussi, mais ça n'a pas vraiment été abordé sous cet angle-là, et je voulais quand même ouvrir un peu la fenêtre sur ça. Parce que c'est...
Oui.
Et donc dans ce cas-là, encore plus, nos enfants à nous sont dans des pays plus riches, fait que même s'ils sont super écolos dans la mesure qu'ils peuvent, ça serait quand même pire que s'ils étaient nés ailleurs, parce que là-bas, le niveau de vie est plus bas et donc, en conséquent, le, l'empreinte est plus faible. Voilà, c'était ma petite dose de pessimisme pour la soirée. Bonne nuit.
Est-ce que je peux, répondre à ce que vous te questionnez par rapport à ce que tu viens de dire, si je prends pas la parole?
Ben, je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, sinon... qui s'est pas déjà exprimé. Il y a peut-être quelqu'un qui
se trouve.
Bon, c'est par rapport à... disons, rajouter une couche de cynisme sur le cynisme, c'est que... ils peuvent très bien aller chercher de la marge de croissance ailleurs, même sous couvert de... comment dire, de régler les problèmes de climat, parce qu'il y a en ce moment toute une démarche technico-scientifique qui concerne la géo-ingénierie. Qu'il faudrait qu'on regarde très près, parce que c'est quelque chose auquel sont sensibles les gouvernements pour ne pas avoir à aborder le problème. C'est comme ça. Les analyses et les analyses, c'est à ça. Une autre chose, c'est que ils ne sont pas très nombreux, vous l'avez dit, les capitalistes, c'est quand même une classe qui est restreinte. Donc, c'est des gens qui peuvent pousser le cynisme jusqu'à ne plus aller à Aspen et puis laisser la villa là-bas ou sur la Côte d'Azur si le climat change à ce niveau-là et puis aller à travailler et s'installer ailleurs. C'est pas un problème. Le fait que on n'arrivera pas à les culpabiliser là-dessus, c'est toujours les masses qui vont souffrir. L'autre chose, c'est par rapport à la démocratie participative. Alors, c'est vrai que on a du mal à s'exprimer, donc du coup, ça pète de temps en temps, c'est pas plus mal. Les grèves, des choses comme ça, c'est pas mal que les gilets jaunes en France. Mais après, c'est vrai que quelqu'un dit c'est étouffé démocratiquement. C'est-à-dire que ça s'enlise dans les marais de la démocratie. Alors, il y a une espèce de plafond de verre institutionnel que ressentent les gens qui ont des démarches de ce genre-là. On les consulte, c'est tout le travail qu'ils font, normalement, le travail non conséquent. Qui après est donné dans les mains des parlementaires, et puis au mieux ça fait l'objet d'un débat d'une journée. J'ai retrouvé le moyen de constater comment c'est possible de faire ça. Donc il y a une façon d'essayer d'avoir une institutionnalisation de ces démarches-là. Au Québec, par exemple, il y a l'Institut du Nouveau Monde qui a fait un projet d'un an sur un groupe de participants avec une consultation pour ces démarches-là. Qui s'appelait constituant, c'est-à-dire l'établissement d'une constitution québécoise qui pour l'instant n'existe pas. Donc il y a la British Columbia qui a fait une constitution. Ça a été présenté au gouvernement, ça a discuté 10 minutes, un quart d'heure pour dire comment le travail est très bien fait. Ça n'a pas été présenté officiellement, mais il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et dans ce projet-là de constitution, il y avait un projet de reconstituer la deuxième chambre. Ici, vous avez une chambre de l'Assemblée nationale. En France, il y a le Sénat qui mériterait d'être transformé, mais qui va résister à ce genre de projet. Là, ici, vous avez une chambre qui n'existe pas, qui devrait être créée. Dans ce projet de constitution québécoise, et à travers ce projet de constitution, il y avait un moyen d'accéder à un niveau décisionnel. Donc, ce projet-là, il s'est terminé dans les tiroirs, ça faut tirer au sein, c'est clair qu'on fasse un peu comme ça, mais il y a des initiatives qui auraient mérité, si elles avaient été connues, d'être soutenues. Parce que ça fait le complément du travail que vous faites aussi. L'idée, c'est d'essayer de déminer, parce qu'au bout d'un moment, ce profond vers institutionnel, il faut qu'on arrive à casser. Sinon, les politiques en place n'auront jamais le courage de faire, de prendre les résolutions nécessaires.
Beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. La question de la géo-ingénierie, c'est en effet très très important. Pour l'instant, c'est surtout, on en parle dans notre livre, là, le principal véritable projet qui est en train qui se fait, c'est la captation du carbone, principalement donc le stockage du carbone éventuellement sous la terre. Ça pose un certain nombre de problèmes, mais en effet, l'industrie fossile, Exxon en particulier, on investit énormément dans la recherche là-dessus, parce que évidemment c'est la façon la plus simple pour eux de business as usual, de continuer à vendre leurs produits, de continuer à vendre du pétrole sans qu'on ait rien à changer à la structure de la société et à nos façons de faire. Et après, évidemment, sur la question de la démocratie, c'est ça, ça me fait penser, j'ai peut-être pas bien répondu à madame tout à l'heure aussi, mais en effet, il faut qu'il y ait des transformations démocratiques importantes
pour qu'on soit en mesure de faire face à la question de la descente énergétique, la planification aussi de comment on va répondre à nos besoins dans les limites de la planète. Si ça ne se fait pas de façon démocratique, ça va se faire de façon autoritaire. Et ça va se faire un jour ou l'autre. Et donc, pour ça, il faut cultiver des institutions démocratiques. Et ça commence évidemment par des espaces, souvent citoyens, des espaces de lutte, qui, après, grandissent, qui peuvent tenter de s'institutionnaliser, éventuellement avec une deuxième chambre, éventuellement avec d'autres partis au pouvoir. Mais ça prend des pouvoirs populaires qui poussent dans ce sens-là aussi.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu. On va s'arrêter ici parce qu'on a déjà dépassé d'une grosse demi-heure. En fait, je crois que ce que ça veut dire, c'est qu'on se redonne rendez-vous dans 2 semaines où ces questions-là vont... on va continuer d'avoir des informations et on va continuer de pouvoir se discuter. Alors voilà, 3 novembre, mercredi dans 2 semaines. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup, Arnaud.